La loi travail permet la cristallisation d'un mouvement de mécontentement qui a à voir avec le contexte français tout à fait particulier, qui est celui d'un déclassement croissant de la population depuis une vingtaine d'années, de la précarisation d'un grand nombre de gens et de la précarisation notamment des emplois intellectuels avec la naissance de ce qu'on appelait la génération des intellectuels précaires. Et que cette génération se mobilise aujourd'hui essentiellement dans les centres-villes. Tendanciellement, majoritairement, c'est ce qu'on appelle la jeunesse diplômée des idéopôles, c'est-à-dire de ces métropoles connectées à la globalisation. Bien évidemment, ils sont conscients de ces limites-là. Ils essayent de joindre d'autres catégories sociales en France, les zones rurales, les banlieues, ce qu'on appelle la France périphérique notamment. On va voir s'ils y arrivent parce que ça détermine la capacité de ce mouvement social à universaliser son discours, à tendre la main à d'autres catégories sociales, de bâtir une coalition sociale majoritaire dans le pays. Ces questions-là sont ouvertes, elles sont très importantes en fait pour l'avenir politique du pays, pour la capacité qu'il y aura à construire demain une centralité en fait dans le débat public français et dans la vie politique française qui permettent de réformer le pays dans un sens ou dans un autre.
Pour ne parler que de la place de la République, on a l'impression qu'elle s'est transformée ces derniers jours un peu en fabrique des rêves. On parle de beaucoup de choses, des sujets radicalement différents. Alors du travail bien sûr, des réfugiés. Et qu'est-ce qu'ils veulent finalement ces militants joyeux place de la République ?
Ils ont été accusés au début d'être des jeunes qui voulaient vivre comme dans les années 70. Et en fait, pas du tout. Vous savez, il y a une contestation à la fois des imperfections de la démocratie française, une contestation du système économique et social, une contestation de la parité et des formes d'imagination de nouvelles solutions, c'est-à-dire le revenu de base, par exemple, qui est très présent, mais qui était présent bien avant la place de la République, puisqu'il y a des associations qui le défendent sous des formes différentes. Vous avez des idées qui concernent l'agriculture bio, le combat des agriculteurs, et ces combats-là ont été déjà à l'origine du combat altermondialiste, par exemple. Donc vous avez un certain nombre de préoccupations sociales, de préoccupations économiques, environnementales, qui sont à la fois des projets très concrets et puis parfois sont quelques rêves et quelques formes d'utopie. Mais il y a une espèce de forme de reprise de parole. Alors, il faut comprendre aussi que Paris a vécu des mois extrêmement difficiles après les attentats, que la plupart des gens qui sont place de la République ont été frappés au moins indirectement par les attentats du 13 novembre et que le long cauchemar, on va dire, de cet hiver a en quelque sorte pris fin avec l'envahissement de cette place et ces soirées où l'on discute un peu de tout, de rêves, où l'on critique de manière assez nourrie la politique française telle qu'elle se fait. Il y a quelque chose d'assez nouveau qui fait, qui est assez optimiste en vérité et qui tranche avec l'ambiance qu'il y avait dans les mêmes rues il y a quelque temps. Donc il ne faut pas sous-estimer non plus de la part de la population parisienne, la volonté tout simplement de vivre ses rêves, parfois de se faire des illusions. Je crois que ça leur fait aussi du bien.
Vous avez parlé du post-trauma, évidemment, du mois de novembre à Paris. Est-ce que c'est aussi une manière de se donner du frisson dans une démocratie à laquelle on est habitué finalement et qui n'a plus rien à nous offrir que un peu plus ou un peu moins de pouvoir d'achat?
Non, je ne pense pas que ce soit du frisson. Je pense qu'il y a une... on peut faire l'analyse. D'analyse. Il y a une analyse à trois niveaux. Une analyse de la politique européenne, de la politique nationale et de la décentralisation qui toutes marquent le pas d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire que les institutions sont des canaux bloqués aujourd'hui et les taux d'abstention augmentent aux élections intermédiaires. Le quinquennat et le système institutionnel de la cinquième réformée, multiplement réformée, n'est plus satisfaisant. Donc il y a une vraie contestation de fond de ce cadre démocratique-là qui satisfait de moins en moins de gens, où les gens votent par défaut, votent sans rêve, votent contraints et forcés. Les gens vont au bureau de vote de manière beaucoup moins enthousiaste qu'il y a 20 ans, 30 ans, évidemment. Et cette réalité-là fait que oui, ils ont une volonté de travailler à une amélioration de la démocratie, un changement de système démocratique, et puis ils contestent les politiques économiques et sociales qui sont menées. Ils les jugent inefficaces. Ça n'est pas tout à fait un hasard si... C'est cette génération qui le fait. Je trouve qu'elle le fait de manière pacifique, c'est évident. Il y a des formes de naïveté, il y a des expressions très diverses et il y a une honnêteté des uns à l'égard des autres, une bienveillance aussi des participants les uns à l'égard des autres. Donc c'est un phénomène qui est plutôt rafraîchissant pour l'honnête homme qui se balade place de la République, en toute honnêteté.
Changer le monde sans prendre le pouvoir, est-ce que ça pourrait se résumer à ça?
C'est un débat qui a toujours existé au sein de l'altermondialisme depuis 20-25 ans. Il a été tranché, il y a 15 ans, par un cycle nouveau ouvert en Amérique latine qui a été l'accès au pouvoir d'une vaste gamme de gauches qui ont souvent appuyé l'essor du mouvement altermondialiste. En France, en Europe, il n'a pas été tranché définitivement. Il l'a été en Espagne lorsque Podemos s'est créé et qui a répondu par une offre politique nouvelle en expliquant qu'il fallait entrer dans les institutions et changer les choses au gouvernement. C'est maintenant une question qui se pose à ce mouvement naissant en France, qui ne cessera de se poser à lui. Il n'est pas dit que ce mouvement social se transforme en parti. Mais ce qui est réel, c'est que l'arrivée de tous ces jeunes sur une place publique à Paris, qu'ils y restent pendant une semaine, n'est pas anodin. Son extension à la France n'est pas un fait anodin. Il faut maintenant voir ce que vont devenir ces parcours militants.
Quelles réponses les institutions politiques peuvent-elles apporter à ces jeunes et moins jeunes qui se réunissent un peu partout en France ?
La première réponse, c'est l'humilité et l'écoute. L'offre politique nouvelle, c'est d'écouter les questions qui sont posées, les principes dont se réclament ces participants et d'apporter des réponses en conséquence. Mais ça, c'est le travail des partis politiques.
Il n'y a pas de risque de récupération politique d'un côté ou de l'autre ?
Non, parce que c'est un mouvement qui est marqué par l'horizontalité et qui a une sainte horreur de l'incarnation, de la verticalité, de l'autorité, de la hiérarchie. Pour un mouvement social qui veut embrasser les grands thèmes de la vie sociale, ce n'est pas tout à fait un désavantage, ce genre de pratique. Mais ce faisant, ils se prémunissent aussi contre toute forme de récupération. Les membres de la gauche radicale qui pensent pouvoir y trouver un intérêt ont une attitude tout à fait respectueuse et distanciée, distante à l'égard de ce mouvement. D'ailleurs, physiquement, ils viennent place de la République, mais ils ne cherchent pas à haranguer la foule ou à venir faire leur marché aux militants. Il faut être très honnête, de part et d'autre, il y a un respect mutuel, une distance mutuelle. Ils se connaissent, puisque beaucoup militent dans les organisations de différents leaders. Mais pour l'instant, il y a une distance réelle. Il n'y a pas de récupération possible, déjà, de ce mouvement.